Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Dès son arrivée au Japon, les gens l'avaient regardée avec un mélange de curiosité et de méfiance teintée de rejet. Amy était une half. Elle avait connu un autre pays, la Grande-Bretagne. Son père japonais et sa mère anglaise s'étaient tués dans un accident de voiture. On ne lui avait pas permis de les voir une dernière fois. Une petite fille de 9 ans ne pouvait pas aller se recueillir à la morgue. Les choses étaient restées floues dans sa mémoire. Elle se souvenait vaguement du corbillard et de la tombe dans l'herbe mouillée du cimetière anglais. Sa tante Harumi Yasukawa avait fait son apparition et l'avait abreuvée de paroles faussement rassurantes. Elle avait découvert une femme sèche, affublée d'un imperméable, qui ressemblait à ceux de son père, mais dont les sangles étaient en plastique. Elle était venue pour l'emmener vivre avec elle au Japon, et Amy avait pris l'avion. Elle se souvenait encore du vent chaud et visqueux, rempli d'iode et de pollution, qui s'était engouffré dans ses vêtements dès la sortie de l'aéroport, et du trajet si long qui avait suivi dans les transports en commun. Sa nouvelle vie avait commencé dans un petit appartement situé dans l'arrondissement d'Itabashi à Tokyo. Ses parents l'avaient habitué à un certain luxe. Ici, il avait fallu se contenter de petits espaces et découvrir la frugalité. Elle avait été placée dans une école publique. Ses vêtements avaient été déjà portés par un autre enfant. Son argent de poche était limité à quelques centaines de yens et le budget de la maison semblait servir à d'autres activités comme le pachinko, la cigarette ou la boisson. Sa tante était célibataire et refusait de dépenser inutilement pour sa nièce.
Littérature sans frontières.
Un pays.
Un auteur.
Bonjour Maeko Kaito.
Bonjour.
Et merci de nous avoir lu cet extrait de votre roman intitulé « À l'ombre de l'eau » qui est apparu aux éditions du Seuil en français. Parce que, un peu comme votre héroïne Amy, vous êtes issue d'une double culture. Vous, c'est japonaise et française. Que représente le Japon pour vous ?
Je suis née en captivité, comme dit souvent mon mari, c'est une plaisanterie qu'on a entre nous. Je suis née donc en captivité à Paris et mes parents étaient donc japonais. Je suis 100% de sang japonais et je parlais japonais donc à la maison et en français à l'école. Et le japonais est devenu, si vous voulez, ma langue de travail un peu plus tard. Et ce qui fait que je l'ai pratiqué, j'ai été assistante chargée d'études dans des organismes affiliés au gouvernement japonais. Et j'ai aussi effectué des missions de traduction par la suite. Voilà, donc effectivement, j'ai une double culture qui s'inscrit dans une sorte de tradition familiale.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes allée au Japon, donc où vous n'êtes pas née, mais où sont nés vos parents ?
Oui, bien sûr, je me souviens de la première fois. C'était au moment du Setsubun. Et je me souviens que ma tante m'avait offert un kimono. Voilà, et donc je l'ai revêtu et j'ai lancé des petits haricots rouges. C'est ce qui fait le jour du Setsubun, qui est donc le passage, à la saison du printemps.
Et vous aviez quel âge ?
Oh, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça.
Donc c'est un pays que vous connaissez bien, où vous allez régulièrement, dont vous parlez la langue.
Oui.
Et pourtant, ce premier roman est écrit en français, tout en se déroulant intégralement au Japon. Pourquoi le choix de cette langue plus que l'autre ?
En fait, lorsque j'allais à l'école à Paris, j'étais dans une petite école où il y avait à peu près 300 élèves. J'étais le petit piment exotique, parce que j'étais la seule asiatique. Et il y a eu cette espèce de phénomène d'exotisme, si vous voulez, qui fait que j'étais déjà considérée comme une étrangère en France, alors que j'étais née ici. Donc voilà, je suis de nationalité française. Mais il y a une autre, d'ailleurs, élève qui est arrivée, une Vietnamienne qui est arrivée après. Alors elle, on allait la voir pour les maths. Moi, on venait me voir pour les dissertations. J'ai toujours été, en fait, étrangère partout. Voilà. Dans mon propre pays, au Japon, et dans mon propre pays encore, la France.
Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne répond pas forcément à la question du choix de la langue. Parce que écrivant un roman sur le Japon, vous auriez pu décider de l'écrire en japonais.
Oui, en fait, le japonais, je ne l'ai appris que petit à petit. Tous les samedis, il y avait un cours que tous les japonais de ma génération connaissent, qui est le cours Takehara. Et nous y allions pour étudier le japonais et apprendre les kanji, surtout. Mais j'étais la seule à être née en France, donc j'étais le cancre du groupe.
Donc vous avez l'impression que ce n'est pas une langue que vous maîtrisez suffisamment pour que ce soit une langue romanesque?
Voilà, en fait, la langue de dissertation, qui est donc le français, est devenue naturellement ma langue de fiction.
Donc nous voici au cœur de Tokyo.
Oui.
Avec votre roman À l'ombre de l'eau, Maiko Kato, avec une enquête policière concernant les meurtres de plusieurs jeunes femmes, une série qui a un lien avec une autre affaire 5 ans plus tôt et dont à la fin du roman, les lecteurs comprendront que certains protagonistes sont impliqués dans les deux histoires. Mais avant d'entrer dans l'intrigue, j'aimerais parler de vos deux personnages principaux, Emi Yasukawa Abbott, dont on a fait connaissance dans la lecture tout à l'heure, cette jeune femme, belle, intelligente, mais totalement sous-employée dans la compagnie où elle travaille, et Hayato Isaichi, que l'on a découvert lycéen dans la première affaire et que l'on retrouve en 2019, étudiant, obligé d'être escorte pour gagner sa vie. Ce sont deux jeunes gens qui ne se connaissaient pas, évidemment, adolescents qui vont faire connaissance plus tard, deux jeunes gens donc qui ont un parcours très particulier, pour ne pas dire douloureux. Et par exemple, Emi a été victime d'Ijime, je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous allez me corriger, Maiko Kato, d'Ijime dans son adolescence. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer cette expression japonaise ?
Oui, l'ijime, il s'agit d'un harcèlement scolaire sous forme de brimade. Il faut que ce soit chronique pour que ce soit de l'ijime. Et aussi, cela se fait par des rejets sous forme de cyberharcèlement, vous savez, avec les SNS. Et c'est terrible parce que les victimes de l'ijime ont des différences qui sont bénignes au départ. Hein. Ce sont des différences d'apparence, de classe sociale, des différences de difficultés aussi d'intégration, et c'est un phénomène qui a pris une telle ampleur que le gouvernement japonais s'en est inquiété, parce que en 2015, ils ont estimé qu'il y avait 224 540 cas d'ijime au Japon, ce qui est énorme et absolument, enfin, c'est un chiffre qui est vraiment tout à fait étonnant. Et après le suicide d'un collégien qui a eu lieu, donc c'était en 2011, dans une ville qui s'appelle Otsu au Japon, le gouvernement japonais a mis en place une loi relative au harcèlement scolaire qui a instauré une sorte de système de prévention pour que l'ijime soit repérable assez rapidement.
Alors c'est intéressant ce que vous nous dites, Maiko Kato, parce que c'est vrai que en même temps le harcèlement à l'école, les souffres-douleurs, les boucs émissaires sont hélas un mal répandu dans le monde entier. Mais je me demandais si il prenait une forme spécifique au Japon, dans la mesure où, par exemple ici, le sujet semble quand même un peu tabou au regard des enseignants, voire du directeur du lycée d'Emi, qui nie les faits, ou en tout cas qui encourage la jeune fille à ne pas se plaindre, ce qui n'est plus tout à fait le cas en Europe.
Oui, la mise en œuvre de la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure est très compliquée parce que les écoles ne veulent tout simplement pas prendre la responsabilité du harcèlement scolaire. Et lorsqu'on demande souvent aux élèves d'aller voir les professeurs pour en leur parler, les élèves eux-mêmes se disent de toutes les façons cela ne servira à rien parce que, en général, les professeurs s'accordent tous pour dire qu'il s'agit d'un phénomène qui ne vaut pas la peine qu'on s'y penche.
Et je me demandais aussi, est-ce que c'est lié au fait qu'elle est afou, c'est-à-dire métisse issu de deux cultures et que de la part de ses camarades, il y a aussi un rejet de sa part étrangère, en d'autres termes, une forme de xénophobie. Est-ce que ça existe, ça ?
Oui, bien entendu. C'est comme dans tous les pays. Au Japon, vous avez une forme de xénophobie. Peut-être que c'est lié au fait que les Japonais considèrent que l'identité japonaise a quelque chose de propre en elle. C'est-à-dire que il faut vraiment quasiment être né au Japon. Il faut être né de deux parents japonais. Et les gens ne se font pas naturaliser, même s'ils ont vécu une vingtaine ou une trentaine d'années, avec facilité au Japon. Il y a tout un processus très complexe par lequel vous devez passer pour être naturalisé japonais, par exemple. Donc, oui, il y a une idée de l'identité japonaise qui est très forte. Et bon, voilà, ce n'est pas tout à fait du patriotisme, c'est encore autre chose.
Oui. Et vous, dans la mesure où vous êtes issu d'une culture très japonaise, mais née en France, est-ce que vous avez souffert soit d'Ijime ou le fait d'être à fou au Japon?
Oui, j'ai eu effectivement, comme tous les Japonais qui sont nés de parents, même de parents japonais à l'étranger, j'ai un tout petit peu souffert. Bon, voilà, ça n'a pas été un traumatisme, mais j'ai eu pendant longtemps une sorte de complexe de double culture qui est né dans cette école dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'école Takahara, où j'allais tous les samedis. Et il a été également nourri par toutes les réactions des Japonais nés au Japon que j'ai rencontrés durant ma vie, parce que malgré ma tête de japonaise, hein, ils me traitaient en gaijin, c'est-à-dire en étrangère, et chaque erreur que je faisais me renvoyait à ce statut d'étrangère, alors que tous mes efforts tendaient vers la construction d'une sorte d'idéal japonais.
Vous devez avoir un sentiment très ambivalent alors avec ce pays.
Oui, tout à fait. Heureusement, maintenant, j'ai un rapport qui est très pacifié au Japon. Et si vous voulez, je suis encore vexée. Mais l'idée d'appartenance qui se construit en général, soit à l'université, soit dans l'entreprise, ça, je ne l'ai pas connue. Et mes seules références étaient mes parents.
Autre thème que vous abordez ici, Maiko Kato, dans ce panorama de la société japonaise qui émerge forcément à travers cette intrigue policière que vous racontez, c'est la question de la prostitution des jeunes gens, à travers ici l'expérience de Hayato, qui est recrutée par une proxénète pour tenir compagnie, voire plus, à des femmes esselées, et qui ensuite deviendra hôte dans un club de rencontres qui accueille des femmes. Ce sont des pratiques répandues à Tokyo ?
Oui, ce sont des pratiques qui sont assez répandues pour qu'on en parle en tant que phénomène de société dans les médias. Les hosts, c'est une découverte que j'ai faite lorsque je recherchais des renseignements sur des faits divers sur le net. Et Hayato est donc une combinaison de la dizaine de hosts que je suis allée rencontrer sur place dans un club du Kabukicho, qui est l'un des quartiers rouges de Tokyo. Les hosts, c'est tout de même quelque chose de très particulier, et il n'y en a qu'au Japon d'ailleurs. Hein. Les hosts, je crois qu'il n'y en a pas en Chine non plus, n'importe où, en Asie, il n'y en a pas. Et ce sont des jeunes, en fait, qui débarquent à Tokyo de leur province et qui se retrouvent dans des environnements complètement fermés. Ils sont parqués dans des share houses, à trois dans une chambre, et ils découvrent que l'image qu'ils avaient de ce métier, qui était une image très superficielle, et qu'il suffirait de boire avec des filles, de passer du bon temps, eh bien, non, c'était des horaires très très longs, une vie très dur et aussi un métier sans avenir.
Mais comment est-ce que vous expliquez que ce soit répandu au Japon et que ça n'existe pas dans d'autres pays alentours, par exemple? Ce serait lié à quoi?
Peut-être qu'ils se sont engouffrés dans une sorte de manque ou d'absence quasiment de relations interpersonnelles que j'ai pu ressentir profondément à chacune de mes visites au Japon. Il y a aussi le fait que les Japonaises ou les Japonais travaillent énormément. Ils n'ont pas le temps de construire des relations et c'est pour cela que l'on se retrouve avec ce type de phénomène. Je pense, qui est tout à fait particulier.
Et qui naît de cette grande solitude, visiblement éprouvée par la plupart, de même que vous faites référence aussi au Maiko Kato brièvement, mais néanmoins à ces jeunes qui préfèrent vivre cloîtrés, oui, et dont l'état psychologique se dit en japonais hikikomori,
c'est ça ? Hikikomori, tout à fait, c'est ça.
Et ça aussi, c'est particulièrement développé au sein de la jeunesse japonaise.
Oui, c'est très développé parce que tout de même, le système scolaire japonais est un système où la performance, en fait, est mise en avant. Donc, et il y a aussi le fait d'être totalement conforme, si vous voulez, aux voisins. C'est une attitude qui vient de la conception très japonaise qu'il faut vivre en harmonie avec son prochain, qui est extrêmement importante là-bas. Et ce qui fait que, voilà, vous avez ce type de relation au sein de toutes les institutions, que ce soit l'école ou l'entreprise, qui fait que on se retrouve avec des gens qui ne peuvent pas s'adapter parce qu'ils sont tout simplement un peu différents des autres et qui se retrouvent contraints à faire du hikikomori parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter.
Finalement, vous devez être heureuse, Maiko Kato, d'avoir grandi en France.
Oui, parfois, je me dis que dans ce pays de la liberté, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus confortable de vivre ici parce que au Japon, vous avez cette forme de pression sociale qui n'existe pas en France.
Sans frontières.
Un pays.
Un auteur.
Et nous sommes donc au Japon aujourd'hui avec la romancière Maiko Kato, auteure du roman intitulé « À l'ombre de l'eau » paru aux éditions du Seuil. Un polar, on l'a dit, qui se déroule de nos jours à Tokyo et qui met en scène essentiellement deux personnages, Emi et Ayoto, réunis par leur malheur réciproque, à savoir deux adolescences fracassées, marquées par des événements violents et la mort de leurs proches. Pour survivre, l'un et l'autre réagissent différemment. Et si Ayato semble être peut-être dans l'oubli, voire le déni, en revanche, Emi se met à écrire pour évacuer. Et voici ce qu'elle dit, ou ce que vous écrivez très exactement. Emi s'était mise à écrire. L'ijime était devenue son obsession. Elle avait écrit une page, puis deux, puis elle avait fini par écrire un livre entier. Une part d'elle-même avait toujours souhaité révéler ce qui s'était passé, mais elle n'avait eu le courage de le faire que sous la forme d'une fiction. Une autobiographie l'aurait couverte de honte. Fermez les guillemets. Et vous, Maiko Kato, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire, et une fiction policière en particulier ?
Oui, c'est tout simplement parce que je fais confiance aux images souvent qui me viennent, et juste avant le début de l'écriture, j'ai imaginé un personnage qui déambule à Shibuya et qui tombe sur quelque chose par terre, et moi il se trouve que j'ai pensé à un cadavre. C'était un cadavre de femme avec plein de sang autour et des camélias blancs. Et voilà comment les choses ont commencé.
C'est une image qui est venue du jour au lendemain à votre esprit.
Tout à fait. Elle est venue de manière impromptue. Et j'ai été très heureuse de tomber justement sur cette image qui est venue totalement par hasard.
Ça ne vous a pas étonné de voir l'image d'un cadavre de femme entourée de sang ?
Pas du tout.
Ça ne vous a pas effrayé ?
Pas du tout.
Est-ce que ça veut dire que vous étiez à la recherche d'un sujet ? Parce qu'encore une fois, il s'agit d'un premier roman publié. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous aviez déjà commencé d'écrire auparavant et que les textes n'avaient pas trouvé ni éditeur ou n'avaient pas abouti. Est-ce que vous étiez à la recherche d'un sujet ou c'est le sujet qui est venu à vous ?
C'est le sujet qui est venu à moi, comme à l'époque où, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais pouvait éventuellement intéresser quelqu'un d'autre. C'était lors d'un petit voyage, vous savez, comme on en fait parfois des voyages linguistiques, c'était en Angleterre, et je me suis retrouvée dans une classe avec des gens qui étaient issus de milieux très différents, et il fallait écrire un texte qui faisait 4 pages. On pouvait écrire ce qu'on voulait, et moi, je me suis retrouvée à écrire, je ne sais pas pourquoi, une histoire fantastique, avec un élixir de jeunesse, des adolescents qui se font kidnapper, et lorsque le professeur l'a lu devant la classe, les gens ont applaudi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'éventuellement, ce que j'écrivais pourrait éventuellement intéresser quelqu'un.
Et c'est une histoire qui se déroulait au Japon aussi ?
Non, celle-ci se déroulait en Angleterre.
En revanche, là, pour vous, c'était... Évident que ça se passe au Japon ?
Oui, absolument. Il fallait que ça se passe à Tokyo. Tokyo, si vous voulez, c'est une ville vraiment que j'adore. J'y étais des vingtaines de fois. Et il y a une sorte toujours de chaos visuel. Il y a une cacophonie qui est constante. Et puis, au milieu de ce stress, vous avez au milieu de tout cela des lieux plus intimes, les temples, par exemple, qui rappellent que la culture japonaise est celle du silence. Et donc Tokyo offrait une matière, une source d'inspiration inépuisable pour un roman, en particulier un roman policier.
Et pourquoi en particulier, justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que vous-même, vous êtes une lectrice de romans policiers, ou parce que vous sentiez en effet que Tokyo était une ville, je reprends ce que vous venez de dire, avec une forme de chaos, et qui se prêtait justement à une enquête policière qui, de fait, devient presque une quête aussi, peut-être, pour vous, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez allé dans les endroits que vous évoquez dans votre roman.
Oui, parce que dans mes précédents voyages à Tokyo, je me suis retrouvée à marcher dans les rues et à ressentir quelque chose d'assez menaçant, finalement, dans cette ville que je connais, mais de manière partielle. Et ce sentiment de menace, eh bien, cela a été de pair par la suite avec des histoires de meurtres ou d'enquêtes policières.
Et encore une fois, vous lisez les romans policiers, vous ?
Les romans policiers, non, je ne suis pas une spécialiste. Je suis loin d'être une spécialiste.
Je reviens à Amy et son rapport à l'écriture, parce qu'on sent à quel point ça l'aide vers la résilience. Et elle dit que l'écriture est le seul lieu qu'elle ait trouvé pour se sentir en sûreté. Je me demandais en quoi la littérature permettait cette sensation de sûreté, Maiko Kato.
La littérature, bien entendu, c'est souvent une fiction. Cela peut être considéré comme une fuite en avant, mais d'un autre côté, tout ce qui est fiction, cela s'apparente au rêve. Et donc, il y a une relation au rêve qui est une contribution, en fait, à autrui. Tout rêve est une contribution à autrui. Et c'est la manière que les écrivains, la seule manière que les écrivains ont pour, si vous voulez, communiquer leurs sentiments et aussi parfois leur amour aux éventuels lecteurs. Donc, qui auront leur livre entre les mains. Et donc, c'est une sorte de contribution, en fait, que nous faisons. Je considère que la littérature est une contribution.
Et vous aussi, vous vous sentez en sûreté avec l'écriture ?
Oui, l'écriture, je m'y sens en sécurité. Je suis dans le flux, ce qu'on appelle le flux, lorsque j'écris. Et le fait aussi de penser que c'est une forme de communication très, très élevée vis-à-vis d'autrui, eh bien, cela me met dans un état de joie, de bonheur même, souvent.
Tout en racontant des horreurs, donc, racontant des personnages qui tuent parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes de violences, d'autres qui perdent la raison, à l'image de la personne, d'ailleurs, qui sera à l'origine de cette série de meurtres. C'est pas très sécurisant comme univers.
Non, ce n'est pas très sécurisant, mais j'imagine qu'au travers, justement, des horreurs, on peut arriver à trouver des réponses. Si les gens s'interrogent sur eux-mêmes, ils trouveront, je pense, des réponses. Et s'ils en trouvent, alors là, je pense que j'aurai réussi mon pari.
vous égratignez beaucoup un certain nombre de Japonais. Vous dites même ce pays de salariés au dos courbé et au visage rendu inexpressif à force de fatigue. Est-ce que d'une certaine façon, Maiko Kato, c'est parce que vous ne vivez pas au Japon, tout en le connaissant très bien, que vous pouvez vous permettre ce genre de, non pas de critique, mais en tout cas de lucidité?
Oui, on peut avoir un regard forcément un peu différent lorsqu'on habite à l'étranger, et c'est ce regard-là qui fait que on peut aboutir à des analyses comme cela. Mais moi, j'ai à la base, en fait, c'est un regard que j'ai qui est un regard assez qui semble être un regard assez critique, mais je trouve que au contraire, l'univers a donné un cadeau extraordinaire aux Japonais, c'est celui justement d'être né dans le Japon actuel. C'est un pays qui est doté d'infrastructures et de services qui sont d'un niveau de technicité, de modernité et aussi de praticité très élevé. Mais c'est justement dans ce type d'environnement idéal que souvent on trouve des failles, certaines failles où il ne fait pas très très bon s'aventurer.
Et néanmoins, je crois savoir, Maiko Kato, que vous seriez heureuse que ce livre soit traduit au Japon, où vous allez d'ailleurs le présenter.
Oui, je vais essayer d'aller trouver des éditeurs au Japon cet été. Je ne sais pas si c'est possible parce que vous avez le côté, si vous voulez, exotique qui a fait que peut-être ce livre a trouvé un public en France, mais ça ne sera pas le cas au Japon. Donc c'est un challenge qui se présente à moi.
Un défi en effet.
Tout à fait.
Est-ce que vous tenteriez de le traduire vous-même ?
Non, parce qu'en général, cela ne se fait pas. Et puis, je préfère que ce livre soit traduit par quelqu'un dont c'est réellement la langue maternelle.
Et vous avez envie de toucher des Japonais, donc ?
Oui, c'est un message adressé, c'est même, je dirais, un message d'amour inconditionnel envers mon pays d'origine. Et voilà, s'il y a certains messages comme cela qui passent, c'est justement parce qu'il s'agit d'une fiction.
Est-ce que votre prochain roman se déroulera au Japon également ?
Le prochain roman, oui, il est en cours d'écriture et je suis en train de voir si il ne serait pas intéressant de reprendre certains personnages à l'ombre de l'eau. Et je pense que l'autre livre, oui, peut-être il aura une tonalité un tout petit peu plus optimiste, peut-être.
Et peut-être qu'on y entendra une version de « Un jour mon prince viendra » qui est une des chansons citées régulièrement dans votre livre Maiko Kato, « Un jour mon prince viendra » en japonais, ça c'est assez singulier. Ce qui veut dire aussi que par la littérature, finalement, vous avez un peu retrouvé une forme de quoi, cordon ombilical avec le Japon ?
Oui, cela m'a énormément aidé, l'écriture de ce livre, de me retrouver enfin en paix avec moi-même, avec mon identité.
Merci beaucoup, Maiko Kato.
C'est moi qui vous remercie.
Donc, en attendant de lire le suivant,
oui,
je rappelle le titre de ce premier roman, « À l'ombre de l'eau », qui est apparu aux éditions du Seuil.
Littérature sans frontières.